On a une nouvelle série qu'on veut vous proposer pour les semaines à venir avec le livre de Josué. Alors, je sais qu'on l'a normalement pour ceux qui suivent le plan de lecture, c'était courant du mois de novembre qu'on était amené à parcourir ce livre. Et je pense que c'était pas anodin, dans nos réflexions en tant qu'anciens que, y avait cette lecture-là. Je vous rappelle, à la fin de l'année dernière, on s'était questionné, on s'était rappelé, les bases de l'évangile. Comment on rentre dans cette relation avec Dieu? Comment Dieu a rétabli sa relation avec nous? Et on avait vu que du début à la fin, notre vie avec lui dépend de sa grâce, de son intervention. Notre naissance spirituelle à l'œuvre de Dieu, que nos cœurs soient ouverts, c'est Dieu qui a dû toucher nos cœurs. Et on l'a encore vu d'ailleurs dimanche dernier avec cette histoire du jeune homme riche. Sans l'œuvre de Dieu, nous ne pouvons pas le suivre, avancer. Alors c'est vrai qu'avec les responsables, on avait le souhait, dans ce début d'année, de regarder un peu plus concrètement à à la suite, à la marche chrétienne. Même si je dois reconnaître que toute la Bible parle de cette marche, de comment on est appelé à vivre avec le Seigneur. Mais c'est pas n'importe quelle marche. Il y a un objectif, il y a une visibilité au bout. On marche vers notre héritage, vers notre espérance. On a une perspective devant nous. Et voilà le titre un peu de la série qu'on va voir avec Josué. On est en marche vers notre héritage. Parce que, quelque part, le livre de Josué, il est là où le peuple d'Israël va prendre possession de l'héritage promis. Dieu leur avait fait bien des siècles avant à ce peuple, à cette famille, cette promesse. Voilà le terrain où vous serez établis. Où je ferai ma demeure avec vous, vous serez en repos. Voilà votre héritage. Et c'est vrai que on dit souvent du livre de Josué. Alors c'est vrai que ce matin il y a un peu d'introduction, hein. Pardonnez-moi un peu ce temps qu'on va un peu survoler. Mais on dit souvent que on fait le parallèle entre Josué et la lettre d'Éphésiens. Il y a des parallèles très forts et je sais que plusieurs d'entre vous étudient ce texte en ce moment. On l'étudie même en réunion de prière ces derniers temps. Parce que Josué, c'est le peuple qui va prendre possession de son héritage promis. Éphésiens, quelque part, est là aussi pour illustrer, nous encourager à nous saisir de cet héritage que nous avons en Christ, de cette identité nouvelle et de tout ce que cela apporte et de tout ce que cela conduit. Alors Josué, c'est un livre passionnant, vous allez le voir, il y a beaucoup de pépites, beaucoup d'enseignements, beaucoup d'applications pratiques, mais... Et c'est peut-être un avertissement aussi, c'est un livre de l'Ancien Testament, écrit il y a plus de 3500 ans, dans le cadre de l'Ancienne Alliance, dans le cadre de l'alliance entre Dieu et son peuple d'Israël. Nous, on est bien des siècles après, sous l'alliance en Jésus-Christ. Alors on n'a pas le choix de faire un peu aussi un saut dans le temps pour nous situer dans cette histoire. Avec Matthieu, on avait rappelé il y a 15 jours, Dieu avait choisi Abraham. Une famille. Cette famille s'est agrandie pour devenir le peuple d'Israël. Suite à une famine, cette petite famille s'est réfugiée, a trouvé refuge en Égypte, où Dieu l'a bénie. Un peuple qui devient nombreux, qui suscite des jalousies, a été réduit en esclavage. Et par le biais de Moïse, Dieu délivre ce peuple d'Égypte. Plus de 400 ans après être venu en Égypte. Et Dieu va sceller par la suite, ce qu'on appelle une alliance au mont Sinaï, l'alliance avec la loi, les 10 commandements, par exemple. Et Dieu va les guider à travers le désert. Et puis ce peuple se trouve aux frontières de cette terre promise que Dieu avait déjà dit à Abraham. Et c'est là que Moïse va rappeler d'ailleurs notamment les commandements de Dieu. Après maintenant 40 ans d'errance dans le désert, et on le verra pourquoi encore, le peuple d'Israël est appelé maintenant à prendre possession de ce pays, à conquérir, pays que Dieu a promis. Et le livre de Josué reprend à ce moment-là, à la mort de Moïse. Voilà le temps maintenant, le peuple, de rentrer, de prendre possession de son héritage. Alors Josué, hein, vous l'avez compris, c'est un livre historique pour le peuple d'Israël. Mais il y a bien des pépites, bien des encouragements pour nous ce matin aussi. On va voir dans les prochaines semaines, les nombreux enseignements, applications que nous pouvons y tirer pour notre propre marche en 2022. C'est pas évident d'être dans l'Ancien Testament, de se dire, mais qu'est-ce qu'on ressort pour nous? Et je voudrais simplement vous laisser, et comme on va le faire pour Josué, nous laisser trois éléments, trois vérités qui nous aident à nous dire qu'est-ce que le texte de l'Ancien Testament, sous l'Ancienne Alliance, veut nous dire. En fait, interrogez-vous, mais qu'est-ce qu'on apprend sur Dieu ? Qu'est-ce qu'on apprend sur ce qu'il est, sur ce qu'il fait, sur ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'on apprend sur l'homme, sur son cœur, sur ses attitudes ? Et qu'est-ce qu'on apprend, par exemple, aussi sur les relations entre Dieu et les hommes, entre l'homme et Dieu ? L'apôtre Paul lui-même va dire, justement en évoquant cet épisode dans 1 Corinthiens 10:6, vous n'avez pas besoin de le prendre, Paul nous dit « c'est fait ». Donc cette histoire de Josué sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux en ont eu. Ce qu'on va parcourir dans Josué, ce qu'on va voir, est là pour nous servir d'exemple, pour voir nos cœurs, pour voir Dieu, pour voir notre relation avec Dieu. Mais Dieu s'est dévoilé, Dieu s'est montré, et ce Dieu qui était là pour Josué est le même Dieu pour nous. Et c'est ce que je voudrais aussi nous rappeler. On peut faire face aux mêmes défis. Alors ce matin, chapitre 1, on va voir un sujet qui n'est pas toujours évident à aborder, mais le sujet de la réussite. De la réussite. Alors en préparant ce texte, je ne dois pas vous cacher que j'étais particulièrement ému en préparant, parce que les versets qu'on retrouve dans ce chapitre, je pense que c'est les versets que des personnes très bien intentionnées m'ont le plus cité, partagé, écrit, alors que j'étais un jeune chrétien, pour m'encourager dans ma foi. Je ne sais pas le nombre de cartes que j'ai reçues avec ces versets. Et je me suis dit, c'est vrai, si je suis là devant vous, c'est parce que Dieu, par le biais aussi de ces chrétiens, Dieu les a utilisés pour de leurs prières, de leurs encouragements, de leurs exhortations, pour nous enseigner, pour m'encourager à m'enraciner en Dieu et à lui faire confiance. Alors, sans plus attendre, prenons ce texte de Josué, et on va se limiter aux neuf premiers versets. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noun et assistant de Moïse, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous la donne, comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, tout le pays des Hittites, jusqu'à la mer Méditerranée vers le soleil couchant. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement, fortifie-toi. Et aie bon courage, en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite, ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit, pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné ? Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. Ce livre s'ouvre sur la mort de Moïse, vous l'avez vu, et sur la nomination de Josué comme nouveau leader, comme nouveau chef pour le peuple d'Israël. On pourrait dire le nouveau Moïse. Dieu s'adresse là à Josué, tout en lui donnant des indications sur ce qu'il doit faire. « Lève-toi, traverse le fleuve devant toi, avec tout le peuple, entre dans ce pays, cette terre que je vous donne. » Et Dieu lui fait des promesses qui sont juste incroyables, qui sont juste énormes. « Tu vas avoir du succès dans tout ce que tu vas entreprendre. » La réussite. On peut pas rêver mieux comme promesse. Avoir de la réussite, avoir de l'épanouissement, avoir du sens dans ce qu'on entreprend. Avoir une vie qui compte réellement, les choses marchent. Qui veut pas avoir du succès dans ce qu'il entreprend ? Professionnellement, hein, familialement, personnellement. Quelle promesse, mes amis, que Dieu fait à Josué d'avoir de la réussite, alors même qu'il va s'attendre à des défis. Et j'aimerais nous interroger sur que Dieu encourage à trois attitudes à avoir, que Josué doit saisir pour vivre cela. Et la première attitude, cela vous a peut-être pas échappé, mais c'est celle de la confiance. La confiance. Dieu appelle Josué à avoir une pleine confiance en Dieu. Une complète confiance. Autrement dit, la foi dans ce que Dieu promet, dans ce que Dieu dit. Pourquoi ? Pour deux raisons. Josué a toutes les raisons, tous les outils pour se planter, pour chuter, pour faillir, pour pas réussir. Et la deuxième raison, Josué a reçu tous les outils dispo en Dieu pour réussir. Il te faut faire confiance à Dieu. Il te faut faire confiance à Dieu. Il n'y a pas d'autre solution. Il y a de grands dangers, il y a de grands obstacles et on aura l'occasion de le voir devant Josué. Dieu confie, en fait, il faut se dire, à Josué une mission difficile. Toi, tu remplaces Moïse. Vous imaginez ce que ça veut dire ? Vous imaginez la pression ? Toi, Josué, tu remplaces Moïse. Moïse, celui que la Bible dit que Dieu connaissait en face à face. La Bible nous dit dans Deutéronome que personne ne pouvait être comparé à cette proximité que Moïse avait avec Dieu, par les signes qu'il a accomplis, par les miracles que Dieu lui a donné de faire en Égypte, on les enseigne depuis tout petit, les signes que Moïse a pu effectuer par la puissance de Dieu auprès de son peuple, sous les yeux de ce peuple. Et là Dieu dit à Josué, maintenant c'est ton tour, la relève, prends la suite d'un des plus grands leaders. Je sais pas si on se met à la place de Josué, qu'est-ce qu'on réagirait? Alors c'est pas que Josué n'a pas fait ses preuves, hein, on le sait, et je vous encourage à lire les textes avant avec Moïse, où on voit Josué à côté de Moïse. On voit que Moïse avait désigné Josué, d'ailleurs avant sa mort, comme un homme d'ailleurs rempli de l'esprit de sagesse, rempli de la présence de Dieu. Voilà 40 ans que Josué remplit son rôle auprès de Moïse, et maintenant le voilà propulsé sur le devant pour assumer la plus grande des responsabilités pour ce peuple qui est devenu nombreux. Quand on réfléchit, Moïse, quand on regarde ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli, ce qu'il a été, c'est quelqu'un d'irremplaçable. Un homme qui a parlé à Dieu comme un ami. La Bible nous dit qu'il a porté sur son visage son face-à-face avec Dieu. Qui a tenu tête au Pharaon. Qui a parfois aussi tenu tête au peuple rebelle. Mais pourtant, Moïse, en tant que leader, n'a pas réussi à ramener le peuple dans le pays promis. Il y avait des faillites. La génération de Moïse a échoué dans sa mission. Ils avaient pourtant, et c'est ce que je me dis chaque fois quand je réfléchis, cette génération avait vu Dieu à l'œuvre. Déjà en Égypte, quand ils ont dû quitter l'Égypte sous des signes extraordinaires, ils ont vu des miracles, ils ont reçu la loi, ils ont reçu la parole de Dieu, ils ont vu la manifestation de Dieu quand ils avaient terminé le tabernacle. Je n'ose même pas imaginer se dire si là on voyait la présence de Dieu. Ce que cela signifie, sa sainteté, sa puissance. Ils avaient tous les outils, cette génération, pour réussir, pour se dire, on va y aller. Dieu nous l'a promis, pourquoi ça devrait pas être comme il l'a fait par le passé? Et cette génération a été à la porte du pays, il y a 38 ans en arrière, mais ils ont été incrédules. Ils n'ont pas su faire confiance. D'ailleurs, ils avaient envoyé, on le connaît cet épisode, hein, 12 espions. 10 sont revenus, ils disent, on va pas y arriver. La tâche est trop rude. Oui, le pays, il est magnifique, mais la marche, elle est trop haute. Vous avez vu ces habitants ? Au lieu de faire confiance, ils ont douté. Ils n'ont pas fait confiance à la promesse de Dieu. À un moment donné, ils veulent même prendre les choses en main encore. Une fois que Dieu les avait punis face à cette rébellion, alors ils se disent, on va y aller avec nos forces, et ils se prennent une raclée. Et ils réalisent que Dieu n'est plus avec eux. Et puis, ils vont tourner 38 ans dans le désert. Je ne sais pas ce que vous imaginez. Ils ont vu des choses de Dieu extraordinaires. Dieu s'est engagé, Dieu a fait alliance. Et pendant 38 ans, ils sont obligés de tourner parce qu'ils ont manqué de faire confiance alors qu'ils étaient devant ce pays promis. Un cimetière, ce désert. Toute une génération est passée. Tous ceux qui ont vu Dieu agir, ils ont manqué de confiance. Mes amis, Josué, il a la pression là. Je ne sais pas si vous imaginez. Verset 2, lève-toi. Passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Va prendre possession du pays que je te donne. Va conduire cette nouvelle génération qui n'a vu que des tentes, du sable, des morts, qui ont râlé, doivent partir à la conquête d'un pays totalement inconnu. Un peuple qui a pas grand-chose d'expérience avec la guerre, des nomades, des bergers, qui sont très probablement en infériorité numérique. Ils sont vulnérables, parce que je vous rappelle, ils vont rentrer dans le pays avec femmes, enfants, troupeaux. On part pas à la guerre avec tout ce chargement. Il doit franchir le Jourdain, il doit faire face à des habitants du pays qui ne vont pas les laisser faire, des vaillants guerriers. Ils ont une méconnaissance du pays, des contrées qui sont inconnues, des dimensions importantes, même si on ne va pas le prendre ce matin, mais le territoire que Dieu leur donne est vaste pour ce petit peuple. Un vrai défi de foi que de prendre les armes et de dire « Allons, on va faire la volonté de Dieu, on va faire confiance à ce que Dieu nous dit là. » Dieu m'appelle à être cet homme qui mène au combat. Je pense que Josué, à ce moment-là, il a probablement peut-être lutté un peu. C'est pas une mission facile du point de vue humain. Il a tous les choses en main pour louper, pour faillir. Mais Dieu lui dit que malgré ses faiblesses, c'est Dieu qui a un plan incroyable. Et je voudrais juste relire. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noun, assistant de Moïse, mon serviteur est mort, mais maintenant lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, tout le pays des Hittites, jusqu'à la mer Méditerranée, vers le soleil couchant. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Je serai avec toi. Et qu'est-ce que dit Josué au peuple? Et on le voit dans la suite, versets 10 et 11. Josué donna cet ordre aux officiers. Parcourez le camp et voici ce que vous ordonnerez au peuple. Préparez-vous des provisions car dans 3 jours, on passe le Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Josué a confiance. Josué a confiance. Josué met sa confiance absolue en Dieu. Il est OK. Dieu est à mes côtés. Josué connaît son Dieu. Josué connaît ses promesses. Et nous connaissons la fin. Cette région va être conquise. La promesse va s'accomplir. Dieu va donner du succès à cette entreprise. Même si ça n'a pas toujours été très facile, très beau. Et on aura l'occasion de le voir dans les semaines à venir. Il va y avoir des luttes, il va y avoir des chutes. Mais Dieu va honorer son pas de foi de faire confiance aux promesses de Dieu. Mes amis, Dieu nous demande des choses pas faciles. Dieu demande à Josué ici des choses pas faciles, de faire confiance, de lâcher prise. On est souvent découragé aussi dans notre vie chrétienne, non pas parce que Dieu nous a pas dit de ce qu'on devait faire, mais parce qu'on refuse de faire ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande des choses très claires. Quand on regarde l'histoire d'Israël, Israël a chuté non pas parce qu'il savait pas quoi faire, pas parce que Dieu ne leur avait pas dit ce qu'ils devaient faire. Bien au contraire, c'est parce qu'ils n'ont pas écouté, parce qu'ils ont refusé de lui faire confiance, parce que Dieu leur avait demandé des choses et ils ne l'ont pas fait. Ils ont refusé de lui faire confiance. Et c'est quelque chose qui parcourt l'ensemble de l'Écriture. Dieu nous demande de lui faire confiance. Si on veut avoir une vie qui compte, si on veut avoir une vie qui réussit, on pourrait dire, faisons-lui confiance. Ses promesses sont incroyables. Faisons ce que Dieu nous a dit de faire. D'être, ce qu'il nous révèle clairement dans sa parole. Et le temps nous manque. Il est loin de moi la prétention de nous rappeler les promesses incroyables que Dieu donne à son peuple, que Dieu donne à son enfant, que Dieu donne à nous qui sommes rachetés par Christ. Recherchez premièrement son royaume et tout vous sera donné par-dessus. Faisons confiance à ce qu'il nous dit. Et on ne le fait pas. On est distrait, on passe à côté de cela. On a aussi des conquêtes à faire, mes amis. Dans nos propres cœurs, notre péché règne. Faisons confiance à Dieu qu'il est capable de régler cela. Dans notre pays, il y a des âmes qui attendent qu'on annonce l'Évangile. Dieu nous demande d'annoncer l'Évangile, de partager ce message d'espérance. Et si ce n'est pas nous qui l'annonçons, qui ? C'est de notre responsabilité. Faisons confiance en Dieu. Donnons généreusement. Rappelez-vous cette histoire du jeune homme riche où Jésus lui dit « Vends tout et suis-moi ». Là, c'était pareil, « Fais-moi confiance !» Et il n'a pas su. Faisons confiance. Dieu veut que nous réussissions, qu'on soit utile, qu'on soit comblé. Et Josué, en disant « Oui », il est allé, mes amis, pas à la campagne, il est allé sur un champ de bataille où il va risquer sa vie. Alors bien sûr, Dieu ne nous demande pas littéralement de ce qu'il a demandé de faire, mais quand on regarde... Notre vie avec le Seigneur demande des sacrifices, de laisser côté notre manière de vivre et de miser, si on peut dire, tout sur Christ, tout sur lui, de placer notre confiance, et c'est ça notre marche avec le Seigneur, avec notre expérience, c'est de placer totalement notre confiance, d'apprendre à nous décharger de vouloir garder les choses et de se dire, mais non, en fait, Jésus, je te fais confiance. Dieu, je te fais confiance. Et c'est sa grâce qui veut nous aider à lui faire confiance, qui nous rend capables de déployer ses efforts, de faire confiance à lui. Demandons au Seigneur, je veux te faire confiance. Regardez ce passage à la fin de Josué, comme il est beau. Josué 21, 45, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la communauté d'Israël, aucune ne restera sans effet. Toutes s'accomplirent. Toutes les promesses de Dieu, aucune, elles se sont toutes accomplies. Fais-moi confiance. Waouh ! Dieu, quand il fait des promesses, mes amis, il les tient. Et je crois qu'il faut oser nous les affirmer. Dieu, quand il fait des promesses, il les tient. Et c'est pas dans le vide, c'est des paroles profondes. Les promesses faites à Josué se sont accomplies. On passe à côté peut-être de nos vies parce qu'on ne sait pas peut-être faire confiance, parce qu'il y a des résistances. Si on veut une vie où on est bien dans notre peau, dans notre appel, dans notre identité, on lui confiance. La confiance dans ses dons, la confiance dans sa promesse, dans son soutien, la confiance que nous avons tout en Christ. L'aspect de la confiance, c'est fondamental, c'est la foi. La deuxième attitude, c'est d'être courageux. Je relis les versets 6 et 7. Fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement, fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. Le courage, fortifie-toi et prends courage. Trois fois dans le passage, on le voit aussi au verset 9. Sois brave, sois ferme, sois fort. Littéralement, on pourrait le dire, fais effort pour avoir confiance. Courage. Compte sur moi, crois au succès de l'expédition. À quel moment on a besoin de courage? Quand tout va bien? Vous n'avez pas besoin de courage pour prendre la petite sieste de tout à l'heure, peut-être? Non. Le petit Robert nous dit ceci, le courage c'est la fermeté, écoutez bien, devant le danger, la souffrance physique ou morale. Dieu il est en train d'encourager Josué, parce que oui, il est en face des montagnes, il est en face un peuple nombreux. Le courage, on a besoin de courage quand c'est difficile, tâche et ardue, on a besoin de courage. Quand on veut faire la volonté de Dieu, on a besoin de courage si on veut faire la différence. Et la vie avec le Seigneur, parfois c'est difficile. On a besoin de courage. Josué, pour suivre Dieu, il était là en première ligne. Il était le premier de la cordée. Il devait montrer l'exemple. Pour suivre Dieu, parfois on doit être aussi en première ligne. Mes amis, quand on suit le Seigneur, quand on suit Christ, il va y avoir des luttes. Avec notre cœur, avec notre péché, il va y avoir des épreuves. Il va y avoir des conflits. Il va y avoir des souffrances. Il va y avoir des combats. Il va y avoir des critiques sur votre position, sur votre attachement à Christ. Mais la parole nous encourage. Ayez courage. Je veux m'accrocher à toi. Et c'est aussi l'objet pour lequel on est ensemble. On veut s'encourager. On veut continuer à te louer. Ça vaut la peine. Je vais tenir. On veut compter ensemble sur ses promesses. Je vais persévérer. Je veux me rassembler. Je veux échanger avec les autres. Je veux continuer à pleurer avec les autres parce que ça va pas. Parce que j'ai confiance en les promesses de l'Écriture. Josué est chargé par Dieu de conduire, de porter la charge, de conduire un peuple nombreux sur un champ de bataille. Il va devoir prendre des décisions difficiles, faire des concessions, va faire des sacrifices. En même temps, Josué va devoir lutter contre son propre péché. Il va devoir croire en l'impossible, affronter de nombreux et terribles ennemis. Et courage. Pourquoi le peuple n'a pas pu entrer dans le pays 38 ans plus tôt? Je vous ai dit, il n'avait pas fait confiance. Je vous rappelle, 12 espions sont partis explorer, ils sont revenus. Et écoutez comment Moïse le résume, et je vais le prendre, hein, vous n'avez pas besoin, simplement écoutez. Moïse va le résumer dans Deutéronome, juste le livre avant Josué, et Deutéronome, et justement, Moïse l'écrit pour cette génération de Josué, cette génération qui va entrer dans le pays promis. On lit dans Deutéronome 1, à partir du verset 20, « Je vous ai dit, vous êtes arrivés à la région montagneuse des Amoréens, que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. » Regarde, l'Éternel, ton Dieu, met le pays devant toi. Monte, prends-en possession, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres. Là, il rappelle toutes les promesses de Dieu. N'aie pas peur, ne te laisse pas effrayer. Vous vous êtes tous approchés de moi et vous avez dit, envoyons des hommes devant nous pour explorer le pays et pour nous faire un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons et sur la ville où nous arriverons. Cet avis me parut bon et j'ai pris 12 hommes parmi vous, un par tribu. Ils sont partis, ont traversé la montagne et sont arrivés jusqu'à la vallée d'Eshcol. Ils ont exploré. Ils ont pris dans la main des produits du pays et nous les ont présentés. Ils nous ont fait un rapport et ont dit, c'est un bon pays que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Mais vous n'avez pas voulu y monter et vous vous êtes révoltés contre l'ordre de l'Éternel, votre Dieu. Vous avez murmuré dans vos tentes et vous aviez dit, c'est parce que l'Éternel nous déteste qu'il nous a fait sortir d'Égypte. Il voulait nous livrer entre les mains des Amoréens et nous détruire. Où pourrions-nous monter ? Nos frères nous ont fait perdre courage en disant « C'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous. » Les 10 espions ont fait perdre courage. Vous avez entendu ce mot « courage » ? Visiblement, c'est impossible. On va pas y arriver, ils ont manqué de courage. Dieu doit nous haïr, il veut notre défaite. Parfois, quand on est dans des situations difficiles, on se dit « Dieu doit vraiment pas m'aimer. Pourquoi il me sème ma vie tellement d'embûches. Il est où Dieu ? » Mes amis, le courage nous pousse à persévérer, à faire le pas de plus, parce que j'ai confiance dans le chemin tracé par Dieu. Dieu a fait des promesses extraordinaires pour eux, et c'est à leur manque de courage qui a conduit à ne pas faire confiance à Dieu. Ils ont manqué de courage, ils ont défailli. Combien de générations, mes amis, sont passées à côté des promesses de Dieu et des bénédictions parce qu'ils ont manqué de courage, parce qu'ils ont dit c'est impossible, c'est simplement plus possible. Mes amis, que ce soit pas le cas de notre génération, de notre Église, qu'on se dise pas c'est quoi le prochain chapitre pour nous. Dieu nous a abandonnés. Non, Dieu nous a fait des promesses. Mes amis, qu'on soit remplis de courage. Dieu, qu'est-ce que tu as en réserve pour nous ? Qu'on soit conquérants. Oui, mes amis, il y a des défis. Tous les jours. Mais le courage nous permet de tenir une minute de plus, une heure de plus, une journée de plus. Et pourquoi pouvons-nous avoir courage ? Parce que Dieu, il est infiniment grand. Ce qui veut dire que ce qui est devant nous, selon ses promesses, est toujours meilleur. On a toujours plus à découvrir de Dieu. Mes amis, il faut croire que le meilleur est devant nous. Notre héritage, c'est pour ça notre marche vers notre héritage est devant nous. Ce n'est pas rien d'avoir ce regard focalisé avec confiance. Il est devant nous. Alors bien évidemment, il y a des jours glorieux derrière nous. Parfois on entend ça. Oh, j'étais encouragé par le Seigneur dans le passé. Oh, l'Église, oh, comme elle était bouillante pour le Seigneur. On se retrouvait à 40 à prier. Oui, c'était glorieux. Mais avec l'espérance et les promesses de Dieu, ce qu'il y a devant nous est encore meilleur. Le plus beau est toujours devant avec Dieu. Et c'est ce qu'il faut nous saisir. Le meilleur de notre Église, mes amis, est devant nous. Si on fait confiance à Dieu, il n'est pas juste derrière. Et j'en ai aucun doute. Aucun doute. Le meilleur est devant nous. C'est la parole de Dieu qui le dit. Mes amis, il faut prendre des risques, il faut investir. Il faut faire des décisions radicales, prendre des mesures. Je sais quand le Seigneur nous a interpellés pour le ministère, il y avait tellement de fossés devant nous. On se dit, c'est impossible. Le Seigneur nous dit, fais confiance. Le meilleur est devant vous. Et c'est sa grâce qui nous permet de vivre cela. C'est un don de Dieu qui nous pousse à avancer un pas de plus, à nous donner courage. C'est la grâce de Dieu qui nous permet d'être entourés. Lorsqu'on perd courage, lorsqu'on perd pied, soutenons-nous les uns les autres. Josué est quelqu'un de courageux. C'était un des 12 espions. Hein. Et qui lui avait dit avec Caleb, il faut y aller. Il avait courage. C'est un leader, il a osé prendre la parole, quitte à être presque lapidé à ce moment-là. Il a osé se lever. Un grand leader du XXe siècle, Winston Churchill, a dit ceci, « Le courage, c'est ce qu'il faut pour se lever et parler. » Mais il dit ceci, « Le courage est aussi ce qu'il faut pour s'asseoir et écouter. » Et c'est un peu la suite. C'est ce que Dieu dit ici à Josué. « Tu as eu le courage de t'affirmer. » Josué a montré qu'il avait confiance en Dieu, mais voilà ce que je te demande. Relisons le verset 7. Fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir où que tu ailles. Josué, tu dois être un leader qui sache écouter, m'écouter. Le succès de Josué repose, son courage repose sur sa capacité qu'il aura d'obéir à Dieu, de l'écouter, de prendre soin de suivre la parole de Dieu. Ne t'en écarte ni à droite, ni à gauche. De nos jours, on aime bien un peu vivre à la carte et de se dire, bon, est-ce que Dieu permet ça? Peut-être pas. Le meilleur moyen d'être un leader selon le cœur de Dieu, c'est de nous attacher sans aucun compromis toute la loi. Ne t'en écarte ni à droite, ni à gauche, afin de réussir. Mes amis, le succès de Josué va s'enraciner dans sa capacité à écouter Dieu. C'est sa troisième demande, que Dieu soit conforme, la conformité à la parole. Dieu lui donne un commandement. Tu veux réussir? Alors tu dois fidèlement obéir. Tu dois m'écouter. Il n'y a aucune réussite pour toi, Josué, si tu ne médites pas la parole de Dieu jour et nuit. C'est la seule solution. On n'aime pas toujours entendre ça. Hein. Tu veux avoir une vie qui compte? Tu veux faire la différence? Sois dans la parole de Dieu. Josué. Voilà l'encouragement de Dieu pour Josué, de méditer de façon persévérante ce que Dieu lui a dit, leur a donné. Moi je me suis dit, mais Josué, il était 40 ans aux premières loges avec Moïse, il a entendu parler de Dieu, Dieu leur a parlé, il pourrait se dire, bon maintenant j'ai assez écouté, j'ai assez entendu, je comprends le concept, puis j'y vais. Non, Dieu lui dit, vas-y, mais en continuant à t'appliquer à ce que Dieu a dit. Mais c'est un défi tellement grand, hein. Tellement simple, mais c'est compliqué. Un combat de tous les jours. On n'a pas besoin de faire un sondage entre nous, dans l'Église, dans le monde, pour connaître combien on a médité sa parole. Combien elle est cette parole qui nous rafraîchit jour après jour. Et je ne veux pas rentrer dans le légalisme en disant cela, hein. Parce que ce texte pointe mes propres fragilités, de se dire, mais est-ce que je connais la parole de Dieu? Est-ce que je connais ses nombreuses promesses au point de faire confiance en toute situation? On est dans un monde de distraction, un monde de bien, de confort, qui nous détourne de ces temps de découverte de notre Dieu. Mes amis, on pourrait se poser la question, est-ce qu'on veut réussir pour Dieu? C'est où on veut réussir? Est-ce qu'on veut avoir une vie qui compte? Est-ce qu'on veut avoir un trésor dans le ciel? Le jeune homme riche de dimanche dernier n'a pas écouté, n'a pas voulu écouter, n'a pas voulu faire confiance. Et il est passé à côté d'une vie riche dans le ciel. Est-ce qu'on ouvre la Bible une fois par semaine et de se dire, bon oui, on va prendre notre ration de survie. On vit, et c'est ce qui est dramatique, je trouve, pour ma vie, pour l'Église, on vit dans une période où la Bible n'a jamais été autant accessible. Elle est disponible partout, sur tous les formats que vous voulez. On a tous accès, en France, à la lecture. Moi, je suis ébahi de voir ma petite fille découvrir la lecture. Alors, ils ont la possibilité de lire, d'avoir accès à la parole de Dieu. En deux clics, vous avez d'excellentes prédications. Vous cherchez à vous nourrir en semaine, on peut vous en donner par milliers. Il y a des livres en quantité incroyable, des formations gratuites, en ligne, en présentiel, tout ce que vous voulez. C'est notre accès à nous occidentaux, de pouvoir écouter ce que Dieu nous a laissé. Et je crois que notre plus grande difficulté, c'est notre négligence de l'écouter. Probablement la plus grande difficulté de notre génération, de ne pas immerger nos vies, toute la parole de Dieu, ne t'en détourne ni à droite afin que tu réussisses. Mes amis, je crois que le peuple d'Israël a été à la ruine et la suite le montrera parce qu'ils n'ont pas su écouter, parce qu'ils n'ont pas su méditer, parce qu'ils n'ont pas su mettre en application ce que Dieu leur avait simplement dit. Mes amis, notre ruine de l'Église, notre ruine de nos vies, sera peut-être aussi liée à notre négligence d'avoir écouté Dieu. Est-ce que vous avez déjà essayé de ne pas manger une semaine? Pas facile, hein? Qu'est-ce qui se passe quand on mange pas une semaine? On se fatigue? On maigrit? On va s'affaiblir. Pour ceux qui font des jeûnes et qui font des grèves de la faim, on doit les suivre médicalement parce qu'à un moment donné, ils n'arrivent plus tout à fait à raisonner clairement. On voit plus très bien, notre santé décline, nos organes, les fonctions vitales sont au ralenti. D'ailleurs, si on mange pas, notre humeur va changer, on va être irrité. Regardez le parallèle, Dieu nous dit que sa parole, c'est un pain de vie. C'est notre nourriture spirituelle. Si on veut être des chrétiens en bonne santé, et là, je crois pas que je suis trop légaliste en disant cela, on a besoin de la parole de Dieu. On a besoin de nous nourrir quotidiennement. Je pense que si on est irrité les uns vers les autres, si on est déçu, si on n'est pas bien, dans nos difficultés, c'est peut-être parce que on laisse pas Dieu façonner nos vies. On est peut-être en survie si on prend qu'un repas par semaine. Dieu nous appelle à vivre, Dieu nous appelle à réussir, Dieu nous appelle à nous enraciner. La lecture de la Bible nous amène à Dieu, à mieux le connaître. Elle incite à veiller sur notre conduite, elle fortifie notre foi, elle développe notre amour pour le Seigneur. Sa parole est la parole de Dieu, parole de vie, parole de grâce. Nous sommes appelés à demeurer dans sa parole, à la garder, à la pratiquer, à y obéir, à la partager. On a le devoir de l'enseigner. Elle est celle qui touche nos cœurs, elle est celle qui éveille la foi. Elle est celle qui engendre la vie, nous dit d'autres passages. Elle est puissance de Dieu, elle est plus tranchante qu'une épée. Et le seul succès que Dieu lui dit à Josué, que peut connaître, c'est en étant dans la parole jour et nuit. Voilà ce que l'Éternel lui dit. C'est la seule façon que tu auras de pouvoir conduire avec succès ce peuple. Si on veut être une église qui vibre pour Dieu, qui veut pas juste survivre, si nous voulons être une génération, et là je prends du vocabulaire qui n'est pas trop dans mon habitude, hein, qui voulons vaincre, qui voulons porter du fruit, qui veut donner envie, soyons un peuple enraciné dans la parole de Dieu vivante pour chacun de nous. Un chrétien qui rayonne est un chrétien qui est dans la parole. Je prends le psaume 1, ça fait écho, on connaît. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Trouve son plaisir dans la parole de Dieu. Dieu ne dit pas à Josué, écoute, je te fais une suggestion. Fortifie-toi, prends courage et prends du temps quand tu peux à appliquer, à écouter, à m'écouter, à suivre les commandements de Dieu. Je te l'ordonne. Et le verset 3 de ce psaume, hein, celui qui trouve son plaisir, il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. On est dans ce même sujet de la réussite, mes amis. Notre réussite est conditionnée par notre vie enracinée dans la parole de Dieu. Un chrétien verdoyant. Et celui qui la médite, et là je cite simplement hein, mon précieux prédécesseur Dominique, qui dit dans un livre extraordinaire sur la méditation, méditer la Bible c'est quoi? C'est réfléchir avec le secours de Dieu, avec le secours du Saint-Esprit à ce qu'elle affirme. Qu'est-ce que nous dit Dieu de lui, de nous, et ce qu'elle implique pour nous. Mes amis, accrochons-nous à la parole, mémorisons-la, appliquons-la. Mes amis, il n'y a pas de vie chrétienne solide, ni de victoire sur le péché, sans un contact avec l'Écriture et la vie par son esprit. Difficile, hein? On a peut-être besoin d'être reboosté dans notre foi. Relisez le psaume 119 qui va être un hymne à l'attachement à l'Écriture. La Bible, mes amis, la parole de Dieu est une réponse à tous nos problèmes. Bien sûr, c'est pas là-dedans que vous allez trouver votre réponse pour votre fuite d'eau ou j'en sais rien, mais c'est votre manuel pour vivre au quotidien. Notre vie sur terre. Notre marche vers notre héritage. Paul dit pour que l'homme soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. On cherche à servir, à réfléchir. Quels sont les dons que le Seigneur m'a donnés? Écoutons le Seigneur. Elle est une réponse pour réussir. C'est un livre qui nous donne la guérison, qui nous conduit pour tous les jours. Et pourquoi pour tous les jours? Parce qu'on oublie. Je suis le premier. Je me suis remis à mémoriser les versets et je vous dis pas que je galère. Tous les matins, je dois me forcer. Aïe, aïe, aïe. Des versets que j'avais appris. On oublie. Le peuple d'Israël a chuté à de nombreuses. Pourquoi? Parce qu'il a oublié. Je connais pas les statistiques, mais je sais que c'est assez nombreux. Combien d'entre nous auront oublié le thème du message d'ici quelques jours ou d'ici quelques heures? Vous aurez probablement oublié mes 3 points. J'avais mis 3C, hein, ces 3 là. 3C que j'ai dit ce matin, on les aura oubliés. Mais je vais vous dire, c'est pas grave. C'est pas grave si on se nourrit jour après jour de sa parole. Parce qu'on a besoin quotidiennement de nous les rappeler. C'est pour ça qu'on a besoin de se retrouver, besoin de s'encourager en famille autour de la parole de Dieu. On a besoin de se rappeler de ce que Dieu a dit, parce qu'on oublie. Est-ce que ça vaut pas la peine de se dire, la réussite, une vie fructueuse, une vie enracinée qui va porter du fruit, elle se passe dans l'écoute de ce que Dieu nous a dit. Rappel, hein, ce verset, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la communauté d'Israël, aucune ne restera sans effet, toutes s'accompliront. Si la Bible nous dit que nous aurons un fruit, si on est enraciné à la parole de Dieu, croyons-le nous. Encourageons-nous à créer des habitudes pour rester connectés à Dieu. Laissons sa parole nous toucher. Parcourons les grands récits ensemble. Lisons comme ça. Prenons du temps pour étudier un passage quand on regarde en détail. Et vous voyez comme les 3 points sont liés. Confiance, courage, conforme. Quels moyens avons-nous pour connaître Dieu, pour avoir davantage confiance que simplement en écoutant ce qu'il nous dit de lui, en prenant le temps d'écouter, en ayant courage, en prenant des engagements clairs. Et ce que j'aime dans ce chapitre, on va terminer là, hein, c'est la conclusion, le peuple va dire à Josué, relisez verset le 10, on l'a pas, le 18, pardon, tout homme qui sera rebelle à ton ordre n'obéira pas, il ordonnera seulement, ça c'est le peuple qui en retour dit, fortifie-toi et prends courage. Après que Josué s'est adressé au peuple, il a dit, on va y aller, dans 3 jours, et vous là, les tribus aussi, le peuple dit, fortifie-toi, prends courage. Quelle belle manière de finir ce chapitre. Dieu a donné cette charge à Josué. Et Dieu va lui donner tout ce dont il a besoin pour assumer cette responsabilité, parce que tout se trouve en Dieu. On veut être d'une génération qui veut vivre des choses fortes avec Dieu, vivre la bénédiction de Dieu. Alors il faut qu'on se le dise, les uns les autres. Fortifie-toi, prends courage. Qu'on s'encourage ensemble. C'est le futur, quelque part, de notre pays, spirituellement. Si personne ne l'annonce, qui annoncera l'œuvre de Christ? Que notre Église puisse être composée d'individus qui portons ensemble cette charge d'être à l'écoute de la parole de Dieu. On a vu Josué s'est empressé d'obéir. Il n'a pas remis à demain l'obéissance. Je vous l'évoquais, hein, et peut-être en conclusion aussi, pour qu'on ne soit pas juste autour de Josué. Josué, d'ailleurs, le mot grec, c'est Jésus. Enfin, si vous le traduisez en mot grec. Josué a conduit Israël vers son repos, son héritage. Mais on le sait, c'est qu'un repos temporaire. Une victoire que partielle. Mais elles sont les signes qui nous orientent vers un autre Josué. Notre Seigneur Jésus-Christ. Plus grand, infaillible. Qui a montré sa confiance en Dieu. Qui a montré son courage. Qui a montré sa conformité à sa parole. Il n'a failli en rien de ce que Dieu lui a demandé de faire. Et c'est lui qui nous conduit vers cet héritage. C'est lui qui nous apporte le vrai repos en Christ. Je voudrais simplement prier.